Bonjour et bienvenue au Brunch politique qui se poltrait au micro, accompagné de Gaël Yvon.
Bonjour Paul.
Monsieur Yvon, je vous souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui.
Merci beaucoup Paul.
Ça vous fait quel âge aujourd'hui?
28 ans.
Félicitations, vous êtes encore tout beau.
Je me sens plus vieux d'une journée.
Et aujourd'hui, nous sommes aussi accompagnés de Monsieur Guérou Schneider.
Bonjour.
Qui vient remplacer en fait Thomas, parce que Thomas, qui est en fait l'homme derrière la technique du son, est malade aujourd'hui. Il a possiblement la COVID, donc puisque nous sommes des individus responsables, nous avons décidé de le laisser à la maison. Et aujourd'hui, pour l'épisode, nous avons avec nous, pour parler des élections françaises, M. Julien Toureil.
Bonjour et joyeux anniversaire, Yvon.
Merci.
Vous portez bien le 28 ans, ça va.
Merci.
Tout d'abord, merci beaucoup. C'est un grand honneur de vous recevoir au Brunch politique, je dois dire, principalement parce que vous m'avez déjà enseigné.
Moi aussi, d'ailleurs.
Enfin, les trois, je pense.
Ouais. Oui, exactement.
Ouais.
Donc, vous nous avez enseigné, en fait, moi, les politiques américaines internationales, en fait. C'est vraiment un honneur de vous recevoir. Mais aujourd'hui, on vous parle des élections françaises. Et tout d'abord, j'aimerais savoir comment vous présenter rapidement pour que les gens savent qui vous êtes, pour les gens qui nous écoutent.
Ben, outre le fait que j'enseigne la politique étrangère des États-Unis depuis manifestement assez longtemps...
Il ne se rappelle pas d'aucun d'entre nous, je pense.
Si. Les visages, c'est les noms que j'ai du mal à retenir. Ben, le plus simple, ça serait de dire que je suis chargé de cours en sciences politiques, essentiellement à l'UQAM, à l'occasion à l'UQAC aussi. Donc je suis un peu un camionneur de l'enseignement, quelque part, ou un routier de l'enseignement. Et je suis également chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Et vous l'avez souligné, je m'intéresse principalement aux États-Unis, mais aussi à l'autre grande puissance sur la scène internationale qui est la France, en particulier ces élections présidentielles qui ont lieu tous les 5 ans.
Oui, et oui, Guérou.
C'est ça. Donc, on peut surtout aussi vous voir quand c'est les élections américaines, que ce soit demi-mandat ou... présidentielle, donc à Radio-Canada ou à RTI, si je m'abuse.
Oui, ça m'arrive. En effet, ça m'arrive aussi.
Oui, et d'ailleurs, puisqu'on parle des élections françaises, la petite question déjeuner, j'ai une question quand même bien concept et je vais la demander à tout le monde ici. Vos meilleures adresses pour, et d'ailleurs, on va dire, pour vos croissants et chocolatines, ici on prend position, donc vos meilleures adresses pour acheter ça justement à Montréal.
Ben moi, je vais citer pour les chocolatines, les croissants, la baguette et autres pains, la boulangerie Toledo sur la rue Wellington à Verdun. Oh. Voilà.
Quand même bien reconnu.
Ouais, non, ça, c'est bon. Moi, croissant, en fait, tout simplement, qui est sur Montréal, si je m'abuse. Pour le pain, ben, moi, j'ai appris avec la pandémie, donc je le fais moi-même maintenant.
Ouais, d'ailleurs, Guérou a toujours des belles photos de pain sur Instagram. C'est super bon.
C'est un petit plaisir.
Oui, et moi aussi, c'était Croissant sur Montréal, qui est vraiment une très bonne adresse pour des viennoiseries. J'apprécie beaucoup. Monsieur Yvon, est-ce que vous en aviez, vous?
Moi, je viens pas de Montréal, donc Première Moisson, c'est toujours très bon. Un petit shout-out à Paul qui a travaillé chez Première Moisson pendant de nombreuses années. Donc, voilà.
Et malheureusement, je ne suis plus un client. Mais donc, passons aux élections françaises maintenant. Monsieur Toureil, je vais vous voyer parce que si ça va être difficile pour moi de vous tutoyer dans l'enregistrement, donc je vais rester sur le vouvoiement. Mais comment expliquer rapidement comment fonctionne le système électoral français pour les présidentielles? Par exemple, si on compare à ce qui se fait ici au Québec.
Déjà, il faut retenir que le mandat d'un président est de 5 ans, depuis une vingtaine d'années maintenant, puisque c'est au début des années 2000 qu'une réforme constitutionnelle a réduit le mandat présidentiel de 7 à 5 ans et a aussi, en plus de cette réduction, prévu une limitation à 2 du nombre de mandats consécutifs qu'un candidat peut faire. Et l'autre élément à ne pas négliger dans cette réforme constitutionnelle du début des années 2000, au-delà de la réduction de la durée du mandat, c'est l'inversement du calendrier électoral, puisqu'il a été décidé que l'élection présidentielle maintenant précède l'élection législative. Le mandat législatif, donc de l'Assemblée nationale, les députés, est également de 5 ans. Mais lorsqu'on a réduit la durée du mandat présidentiel, il y avait une incertitude sur le calendrier, à savoir si la présidentielle précédait la législative ou succédait à la législative. Et donc, il a été décidé de faire en sorte donc, que la présidentielle arrive avant la législative, ce qui a renforcé l'idée que le système politique français est un système à dominante présidentielle. Hein. L'élection présidentielle française, c'est vraiment l'élection la plus importante dans la vie politique, et elle doit donner normalement un élan pour l'élection législative, dans le but de donner au nouveau président élu, ou au président qui a été élu donc quelque part au printemps, cette année ça sera le 24 avril, le second tour, de lui donner une majorité gouvernementale pour qu'il puisse mettre en œuvre son programme. Ce qui m'amène peut-être à un autre élément, au-delà de la durée du mandat, ben c'est le mode de l'élection. Il se fait à deux tours, hein, ce qui est assez différent de ce qu'on peut voir, par exemple, pour les élections ici législatives au Canada et au Québec, ou même l'élection présidentielle aux États-Unis. Ouais. Elle a lieu évidemment qu'à un seul tour. Et donc, en France, on a ce principe des deux tours qui permet peut-être d'avoir une offre politique très diversifiée au premier tour, avec des candidats qui représentent pas mal de sensibilités politiques, peut-être même certaines folkloriques hein, par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs dans d'autres pays occidentaux. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et ce qu'il faut retenir, donc pour aller au second tour, les qualifiés sont les deux premiers du second tour qui se retrouvent, du premier tour, pardon, qui se retrouvent au second tour deux semaines après. Et c'est le vainqueur, évidemment, de ce second tour qui accède à la présidence.
Donc ça m'amène une question, en fait deux questions qui m'intéressent. Est-ce que, justement, le taux de vote est bien différent entre les législatives et la présidentielle?
En termes de participation?
Ouais.
Normalement, on s'attend le plus souvent à une participation peut-être un peu plus faible la législative, bien que, je disais, l'idée, c'est d'avoir une dynamique un peu qui se nourrit de l'une à l'autre. Donc, on n'a pas un effondrement comme on peut y avoir, par exemple, un écart de dizaines de points, de 10 voire 20 points de pourcentage en termes de participation aux États-Unis quand on pense à l'élection présidentielle et aux élections de mi-mandat. L'un des aspects, d'ailleurs, qui va être intéressant à suivre des élections cette année en France, ça va être justement le niveau de participation ou le niveau d'abstention. D'après pas mal d'observateurs, on s'oriente vers une participation plus faible qu'à l'habitude. Hein. Normalement, une élection présidentielle, je vous disais que c'est l'élection la plus importante dans le système politique français, elle se traduit par une participation de 80% et au-delà. Même à 80%, il y a 5 ans, on estimait que c'était relativement faible, ou voilà, c'était pas terrible. Là, on pourrait avoir un taux de participation inférieur à 80%, qui traduit beaucoup de choses hein, sur l'état de la campagne, sur l'état d'esprit aussi des citoyens français qui sont peut-être pas très confiants ou pas très intéressés par le débat public hein, en ce moment, on verra.
Mais quand même 80% là, au Québec, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça.
Oui, ça reste un bon taux de participation, c'est vrai, si on compare à d'autres. C'est probablement lié au fait que voilà, c'est cette élection pour la figure politique par excellence. Normalement, elle doit mobiliser les foules. Et évidemment, quand on parle de taux de participation, ben, il y a toujours cette distinction à faire, hein, par exemple, entre catégories socio-professionnelles et par tranche d'âge. Par exemple, on sait que les jeunes, et ça, ce n'est pas spécifique évidemment à la France, votent significativement moins que les plus âgés. Là, on constate aussi dans les dernières études d'opinion que les classes ouvrières, les personnes non diplômées, devraient moins voter ou plus s'abstenir. Donc la démocratie française, elle a des mots qu'on retrouve dans toutes les autres démocraties. Et encore une fois, on n'a pas le sentiment que la campagne actuelle ait contribué à répondre ou à guérir ces mots-là et à répondre à certaines insatisfactions, peut-être même au contraire.
Guillaume.
Ben oui, mais justement, en fait, l'élection présidentielle contraste très énormément avec les autres élections intermédiaires. Donc, si on va au municipal, départemental ou même les élections européennes, le taux de participation chute considérablement. Donc, ça renforce justement l'aspect de la présidentialisation du système et de l'élection qui est justement un taux, je dirais pas stalinien, mais assez haut comparé justement aux élections intermédiaires. Et c'est intéressant justement de voir la place centrale, mais c'est peut-être aussi, un, le système. C'est quand même une modification à la réforme constitutionnelle de 62 par De Gaulle, où l'élection était passée directe, parce que c'était pas en 58 comme ça.
Exact, au début. Exact. L'élection présidentielle au suffrage universel direct, ça a été établi à partir de 62, oui. Exactement. Et d'ailleurs, De Gaulle était quelque peu réticent au début à cette idée-là. Il a d'ailleurs été mis en ballotage par un certain François Mitterrand lors de la première élection présidentielle. Mais oui, vous avez raison, elle marque cette vie politique. Oh, bon, en plus, elle est assez facile à suivre. Hein. C'est une personne qui est censée incarner la nation. Donc voilà, c'est assez facile d'identifier les compétiteurs, avoir une idée précise peut-être des programmes qu'ils entendent mettre en œuvre. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les autres élections par la suite, qui sont avant tout des élections locales ou supranationales, vous évoquiez les élections européennes, la participation est beaucoup moins élevée, peut-être avec l'exception des municipales qui sont à l'opposé, l'autre grande élection auxquelles les Français sont très attachés. Les Français aiment beaucoup la présidentielle et aiment beaucoup l'échelon municipal. Peut-être que ça, c'est très différent de ce qu'on voit et de ce qu'on connaît en Amérique du Nord, par exemple, en termes de participation et d'intérêt pour la vie municipale. Mais on constate que toutes ces élections donc intermédiaires, même si elles ont un ancrage très local, elles sont devenues comme des mini-référendums ou des baromètres de l'action présidentielle et du gouvernement national. Et on a tendance à essayer de percevoir à travers ces élections-là une forme de jugement de la population à l'endroit des dirigeants nationaux. Il y a donc une nationalisation au final des élections locales et au cours des 5 dernières années, on a par exemple beaucoup souligné que le parti d'Emmanuel Macron, la République en Marche, a échoué ou n'a pas réussi, je ne sais pas comment il faut le dire, à développer un ancrage local et certains y voient une marque de faiblesse ou le symbole d'une personnalité du président Macron qui serait hors sol, hors territoire. Il faudra voir si ça joue contre lui.
Lui, il dirait que ce n'est pas un échec, mais ce n'est pas une réussite, pour juste le citer. Mais aussi, il y a l'élection municipale justement qui est assez importante parce que c'est les maires, entre autres, qui vont choisir justement les sénateurs. Donc, ils vont justement en fait remplir, passer un suffrage indirect justement, donc les sénateurs qui vont justement influer sur le déroulement législatif.
Exactement. Ouais. Mais merci. Et d'ailleurs, c'était tout des détails très intéressants. Mais moi, sur l'aspect politique en France, il y a une particularité. Et dites-moi si je me trompe, mais c'est, historiquement, il y a quand même un clivage gauche-droite assez fort. Quand même une opposition entre les deux mouvements. Est-ce que je me trompe, surtout par exemple si on parle de la présidentielle française, quand même une opposition entre la gauche et la droite?
Oui, c'est un clivage assez classique, traditionnel et fort dans la vie politique française. On a quand même le sentiment que ce clivage-là, il a quelque peu explosé. Et il a été dynamité par Macron lui-même en 2017. Alors, est-ce que ça veut dire que le clivage au niveau des idées, entre des idées plus conservatrices, par exemple, et des idées plus progressistes a disparu? Je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Il suffit de voir d'ailleurs un peu le programme des candidats en lice. Il y a quand même des pôles idéologiques très différents qu'on peut clairement identifier de droite comme de gauche. Par contre, là où la distinction et le clivage semblent avoir significativement explosé ou être mis à mal, c'est au niveau de la santé des partis de gouvernement qui traditionnellement, donc sont des partis de gouvernement, mais incarnent ces idées de droite et de gauche. Et je pense en particulier au Parti socialiste et à la droite de gouvernement, donc aujourd'hui qui s'appelle les Républicains, l'ancienne UMP, l'ancien RPR, qui se sont quand même partagés jusqu'en 2017 le pouvoir, et notamment se sont partagées les victoires à l'élection présidentielle. Mmh. Et pour 2022, sauf surprise, mais alors monumentale, et un changement de tendance à quelques jours de l'élection qui est difficilement envisageable, on va dire ça comme ça, mmh. Aucune des deux candidates de ces partis traditionnels de gouvernement en France, autant le Parti socialiste que les Républicains, ne devraient être qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Et ça, ça va être quand même la deuxième fois au cours des deux dernières élections. Et ça en dit long, pas tant donc, sur la disparition du clivage au niveau des idées que sur la crise des partis traditionnels et leur incapacité peut-être à répondre à certaines attentes de la population, à se régénérer et adapter leur discours et leur méthode de fonctionnement.
C'est intéressant parce qu'on peut tellement faire des parallèles à ce qui se passe un peu au Québec aussi, justement, entre les vieux partis, comme on les appelle ici beaucoup, qui tranquillement sont en perte de vitesse par rapport à des partis qui viennent occuper...
Éric Duhaime, entre autres, avec le Parti conservateur.
Simplement, la CAQ même, qui a éclaté, en fait, ADQ, le PQ et le Parti libéral. Mm.
Mais est-ce qu'on pourrait dire aussi que des nouveaux enjeux aussi de plus en plus s'imposent, par exemple, l'aspect européen, en fait, maintenant, le rapport à l'Europe qui bouscule un peu les idées, est-ce que c'est principalement ça ou c'est simplement une usure de ces partis?
Est-ce que l'Europe pose problème à ces partis? Traditionnellement, ces partis, donc le Parti socialiste et la droite de gouvernement, donc les Républicains, ont contribué à la construction européenne. Mm-hmm. Parce que c'était des partis qui n'avaient peut-être pas les mêmes ambitions sur ce que devait être l'Europe, mais étaient pro-européens. Manifestement, aujourd'hui, sur la scène politique française, il n'y a qu'un seul parti et un seul candidat qui se dit ouvertement européen et pro-européen, qui veut approfondir cette construction-là, qui a une ambition pour celle-ci pleinement assumée, c'est le président sortant, Emmanuel Macron. On se souvient qu'au début de cette année, alors que la France prenait la présidence tournante du Conseil européen, les autorités françaises ont décidé, il y a eu une polémique assez cocasse, de mettre le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe à Paris. Oui. Et ça a suscité, une polémique pendant quelques heures, quelques jours, de tous les partis, y compris le parti Les Républicains, qui voyaient une mise au rencard des symboles de la nation française et donc un manque de patriotisme du président. Donc, est-ce que l'Europe pose problème aux partis traditionnels? Là où ils se font peut-être piéger, c'est avec le discours qu'en France, on a sur l'Europe depuis des décennies, à savoir qu'on rejette l'odieux des décisions difficiles à prendre sur les autorités européennes en disant « c'est pas nous qui voulons être beaucoup plus austères ou sévères dans telle chose, c'est pas nous qui voulons privatiser certains secteurs d'activité, c'est l'Europe qui l'exige ». En oubliant que les décisions à l'Europe, elles sont prises par les représentants élus des États-nations membres, parmi lesquels les représentants français sont parmi les plus influents. Donc oui, l'Europe, c'est 80% des législations nationales, à peu près. Donc oui, il y a un transfert de souveraineté, mais les décisions qui sont prises, elles ne sont pas prises hors sol. Ce n'est pas simplement des technocrates, comme on a l'occasion de le dénoncer à l'occasion. C'est aussi des dirigeants politiques qui... Voilà. Et peut-être que cette position, elle finit par se retourner, ce désamour de l'Europe a une certaine influence.
Elle joue un peu à l'intérieur de la gauche. C'est un des sujets qui fait clivage, mais c'est pas non plus, ça c'est mon avis très personnel, c'est non plus un thème qui fait en fait décide si on veut non plus la campagne présidentielle en ce moment. Je pense qu'on l'a pas encore occulté, mais on va peut-être l'occulter. Mais il y a aussi l'aspect un peu particulier de cette période-là, c'est qu'il y a aussi une guerre, un conflit armé qui se joue. Mmh. C'est justement la question ukrainienne et qui va en même temps, c'est en filigrane. Donc ça joue indirectement sur comment la présidence est là, parce que c'est pas un président, c'est un président et candidat, donc il joue un peu ces deux rôles. Je mettrai pas ça là sur la faute de Macron, ça aurait pu être n'importe qui, il y aurait probablement la même situation. Mais c'est effectivement particulier que Valérie Pécresse des Républicains a abandonne, si on veut, le discours européen, même si, historiquement, elle-même, elle est très pro-européenne et a voté pour et a appuyé toutes les démarches, justement, dans cette direction.
Oui. Et est-ce qu'on va glisser tranquillement vers ça, vers les candidats? Et je voulais justement parler du contexte, en fait, des élections. Puis, bon, pour commencer le contexte, on sort d'une présidence d'Emmanuel Macron. Et selon vous, quels ont été les grands événements, justement, de ce quinquennat de Macron et qui pèse aujourd'hui, en fait, sur les élections présidentielles? Il y en a eu beaucoup, là.
Oui. Alors, on ne va pas tous les passer en revue. Je dirais quand même, pour commencer, que dès son élection, en fait, en 2017, il y a eu cette idée qu'il y aurait peut-être un troisième ou un quatrième tour social qui se jouait dans la rue, parce que en 2017, il a donné l'impression, oui, d'avoir gagné, mais de pas avoir un socle de sympathisants très très solide, et donc d'avoir peut-être une légitimité un petit peu moins importante que ses prédécesseurs. Ça n'a pas empêché dans un premier temps, si on se souvient par exemple à l'automne 2017, déjà ça n'a pas empêché d'avoir une majorité aux élections législatives qui ont suivi au début de l'été 2017, au mois de juin, si ma mémoire est bonne. Et ça ne l'a pas empêché donc à l'automne de commencer son mandat un petit peu sur les chapeaux de roue, notamment en s'engageant dans la fameuse réforme de la Société nationale des chemins de fer français, qui est l'un des fleurons, mais aussi l'un des sujets qui peut mobiliser le plus les forces sociales pour s'opposer à toute réforme, notamment le statut des employés de la SNCF, le régime de retraite.
Là, on parle bien des cheminots.
Les cheminots,
c'est
voilà.
Qui souvent, ça revient, c'est fort.
Ça. Voilà, oui, ça revient, voilà, c'est très régulier. Et on lui promettait l'enfer en 2017 et que cette réforme, elle passerait jamais. Bon, elle est passée, ça a plutôt bien été. Et le début de son mandat n'a pas été marqué par une très grande opposition sociale. Évidemment, ça a changé à partir de l'automne 2018 avec ce fameux mouvement des Gilets jaunes, ouais. Qui s'est articulé sur la base d'une insatisfaction à l'endroit notamment des restrictions ou des ennuis qu'on imposait aux automobilistes. Alors déjà l'augmentation des tarifs, du tarif des carburants, en particulier du diesel, qui est encore assez populaire en France, malgré certains scandales, qui s'ajoutait à une décision prise quelques mois plus tôt, ça doit être au printemps 2018, de réduire la vitesse sur les routes secondaires, sur la route départementale, ouais. De 90 à 80 km/h. Donc, ça a alimenté un sentiment de mécontentement qui s'est cristallisé par le mouvement des gilets rouges, des gilets jaunes, pardon. Je confonds carré rouge, gilets jaunes, ça arrive des fois. Voilà. Et ce mouvement donc, a marqué son quinquennat à partir de l'automne 2018, sans déboucher sur un renversement de la présidence Macron ou de son gouvernement. C'est un mouvement dont l'ampleur sociale, d'ailleurs, a été assez mitigé au final, parce que ça n'a pas été de la même ampleur que les grands mouvements qu'on a pu connaître précédemment. Je pense notamment aux grandes grèves contre la réforme des retraites promises par Alain Juppé au milieu des années 90, je pense que c'était en 95. Mais Macron a répondu à cette insatisfaction-là en sortant le carnet de chèques, hein, ça a coûté quelque chose comme 10 milliards d'euros de promesses, de revalorisation. Ça a peut-être permis d'apaiser un petit peu les choses, mais c'était un peu précurseur du « quoi qu'il en coûte », qui a été au cœur de la réponse de l'État français à la pandémie de Covid-19, qui est quand même L'autre élément qui a, en France comme ailleurs, évidemment, marqué la vie politique depuis 2 ans, qui a suscité là aussi pas mal de discussions, de débats sur l'efficacité des mesures, sur le fait qu'il n'y ait pas de stock d'équipements de protection individuelle, voilà, dans les masques. Enfin bon, des débats assez connus, assez classiques qu'on a pu entendre un peu dans tous les pays occidentaux. Et c'était cette gestion de la crise finalement qui semblait devoir être l'élément de contexte le plus important pour l'élection, jusqu'à ce que, quelque part autour du 24 février, une guerre éclate en Europe et ouvre la voie à autre chose. Alors, il y a peut-être d'autres enjeux qui vont s'avérer un petit peu plus importants que la question de la guerre, des enjeux liés, par exemple, au rôle que jouent les cabinets de conseil dans la politique française. On a beaucoup parlé de McKinsey, je pense.
McKinsey Gate,
au cours des derniers jours. Et après, on constate là, dans les derniers jours, un regain d'un enjeu classique en France, à peu près toutes les élections présidentielles, qui est la question du pouvoir d'achat, dans un contexte marqué évidemment par l'inflation.
On a montré des petits prix de l'essence, entre
autres. Encore, voilà.
Donc voilà qui a un peu marqué le mandat de Macron. Et maintenant, en termes de qu'on tombe, juste avant de tomber dans les élections, là, quel est un peu l'état des forces en ce moment? Quels sont les principaux partis? Parce que pour ceux qui ne suivent pas en ce moment les élections, les principaux partis d'opposition à Macron, est-ce qu'ils sont puissants? Est-ce qu'ils, en ce moment, par exemple, la Chambre législative, à quoi ça ressemble?
À l'Assemblée nationale, Macron a une majorité assez facile. Je me souviens jamais des chiffres exacts, mais disons que il n'a pas eu de problème à devoir créer des formes de coalition. La République En Marche, toute seule, donc son parti, a la majorité. Il peut compter sur l'appui d'autres petits partis ou ce qu'il en reste de centre droit qui, ont à toute fin pratique gouverné avec lui. Donc ça reste comme force de gouvernement la principale, évidemment. Et Macron lui-même, dans les intentions de vote, sans se fier au sondage, il est relativement stable, à peu près à un niveau qui était le sien au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Plus ou moins aux alentours de 25%.
Donc bien assis sur le pouvoir.
A priori. Voilà. A priori. On va être prudent, mais si vous regardez les sondages, presque même de premier tour pour la présidentielle, il est resté assez significativement en tête et plutôt stable. Il y a eu une progression il y a quelques semaines, notamment dans la foulée du déclenchement de la guerre russe en Ukraine, qui a donné une prime au président comme incarnation de la nation en situation de crise. Et peut-être l'image de son volontarisme international avait pu l'aider et un peu anesthésier le débat politique sur d'autres enjeux. Il est monté, je pense, aux alentours de 31% d'intention de vote. Là, il est retombé manifestement assez nettement, mais dans quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on voyait donc, depuis 5 ans. L'autre force politique, c'est l'extrême droite, avec en premier lieu, évidemment, Marine Le Pen. Si on regarde là aussi les intentions de vote, on a le sentiment qu'on se dirige vers un rematch de l'élection présidentielle de 2017, le même second tour avec les deux mêmes candidats, ce qui est anticipé depuis le deuxième tour finalement de 2017, autant par Madame Le Pen que par Macron et son entourage qui ont fait, à travers son discours, à travers ses politiques, de l'extrême droite l'opposant, en se posant lui comme la force, si vous voulez, de l'ouverture, de la tolérance, un peu de la social-démocratie, si on veut, disons fréquentable, face à une extrême droite qui est toute puissante. Et Madame Le Pen, même si on a pu imaginer qu'elle soit en difficulté avec la candidature d'Éric Zemmour, qui est l'autre grande figure de l'extrême droite, on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle a très bien résisté, elle a fait le dos rond, et elle est en bonne position, très nettement, pour être au second tour. de l'élection présidentielle. Mais je dirais que l'extrême droite, c'est la deuxième force politique. Certains diraient même carrément la première, puisque si vous additionnez là, Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Le Pen, on est à quelque chose comme 33%, je crois.
Dans ce
vote. Voilà. Et après, il y a la gauche qui n'est pas, qui est un peu à la gauche du Parti socialiste, incarné par Jean-Luc Mélenchon, qui a une bonne dynamique en cette fin de campagne, manifestement, et qui apparaît potentiellement troisième, aux alentours de peut-être 15-16% dans les sondages. Et après, vous avez le reste du wagon qui...
Mais on va faire le tour après, candidat par candidat. Mais Guéraud, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Je voyais faire signe, parfait. Ben, allons-y.
J'étais tout simplement d'accord avec Touré, mais j'ai pas autant de diplômes, mais je pense que c'est une excellente analyse de M. Touré. Non, il faut le souligner quand on a des professionnels en place.
Mais justement, allons-y, un peu candidat par candidat. On a un peu choisi les candidats les plus connus, parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Parce que, comme on l'a dit, au premier tour, il y a un nombre assez important de candidats. Donc, si on commence un peu justement avec Zemmour, Éric Zemmour, rapidement, qui est un peu ce personnage-là, parce que c'est un personnage qui est connu en France.
Ouais. Juste peut-être pour préciser, oui, il y a beaucoup de candidats, c'est une douzaine. Quand bien même, il y a une règle qui fait en sorte que normalement, les candidats marginaux en France ne peuvent pas ont plus de difficultés à se présenter à l'élection présidentielle, parce que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais il y a une règle qui veut que vous devez avoir 500 signatures d'élus locaux répartis à travers plusieurs des 100 départements français pour pouvoir être officiellement candidat à l'élection présidentielle. Alors, ça écarte des petits candidats, mais pas tous. Donc, on en a 12. Alors oui, Zemmour est connu peut-être à deux titres en France, avant de se lancer donc, dans la campagne électorale, à titre d'intellectuel. Alors là, je vais mettre de très, très gros guillemets. Si je pouvais, j'en rajouterais quelques-uns. Il incarne, si vous voulez, cet intellectuel conservateur qui n'hésite pas à dénoncer cette obsession wokiste là, des conservateurs français qui voient de la gauche bien pensante partout et qui souhaite aussi réaffirmer l'identité proprement française, sous-titre assez explicite dans la plupart des textes de Zemmour, il faut préserver l'identité française de l'immigration et essentiellement de l'immigration en provenance d'Afrique, qu'elle soit d'ailleurs subsaharienne ou d'Afrique du Nord. Donc lui, il voit ou il estime qu'il y a une menace à ce que serait la France pluriséculaire du fait de l'immigration. L'autre élément, donc, c'est ce côté intellectuel, sa base intellectuelle, même s'il a aussi les travaux, les livres qu'il a sortis, ont cette fâcheuse tendance à prendre beaucoup de liberté avec les faits et notamment les données. Si vous l'écoutez, Zemmour, c'est quelqu'un qui aime à vous dire il y a tant de pourcentages de ci, il y a tant de pourcentages de ça, j'ai des faits comme ci, j'ai des faits comme ça. Mais lorsque vous les vérifiez, ils n'existent pas, ces faits-là. Ou alors, la présentation en est tronquée. Il y a une sélection qui a essayé les choisir. Et j'ai l'impression que chez les intellectuels du même acabit que Zemmour ou dans cette sphère idéologique-là, on aime prendre des libertés avec les faits. L'autre élément qui le rend très connu, c'est son côté polémiste. Qui en a fait une personnalité très prisée des plateaux télévisés, notamment de l'équivalent français, donc de Tout le monde en parle, qui existait avant, mais qui est...
On n'est pas couché avec
Laurent Ruquier. Je ne sais plus combien d'années il a officié en tant que cartificier en chef sur cette émission-là, mais qu'il a imposé dans le paysage audiovisuel français. Alors, il a quitté, je ne sais plus trop pour quelle raison d'ailleurs, l'émission. Peut-être que Ruquier s'est aperçu qu'il y avait donné trop de place. Et il a trouvé refuge sur CNews, qui est à toute fin pratique l'équivalent français de Fox News. Si vous écoutez CNews en France et que vous regardez Fox News aux États-Unis, vous avez même l'impression des fois que Fox News est plus raisonnable. Alors, ça on vous dit long sur la dérive qu'il peut y avoir. Et là, il avait une certaine audience. Alors là aussi, lui parle de chiffres complètement hallucinants qui n'ont jamais été vraiment vérifiés, où sa méthode de calcul, elle est un peu bizarre. Mais il a réussi à incarner déjà une droite dure, décomplexée, qui n'hésite pas à poser les questions qui fâchent et à dire tout haut, enfin, prétend-il, hein, ce que une majorité silencieuse de Français pense. Et il a pu incarner en ce sens dans cette élection présidentielle, du moins au début, là, à l'automne de 2021, quand il a lancé sa campagne, une forme de nouveauté. Quelqu'un qui sort un peu des codes habituels de la politique, comme un Trump, finalement.
Mais c'est ça, il se fait souvent comparer, par exemple, dans les médias ici, on compare Zemmour à Trump comme le Trump français, un peu, en quelque sorte. Là.
Oui, oui, oui. Peut-être que. Alors, les bon. Positions. Oui, ouais. Il y en a un qui est plus grand que l'autre, en tout cas. Et,
voilà, pas les mêmes cheveux, non.
Oui, ils n'ont pas la même couleur de cheveux, oui, ouais, ouais, en effet. Ouais. La comparaison, elle peut tenir parce que sa volonté de provoquer, de dire qu'il, lui aussi, il essaye de briser les lignes politiques traditionnelles. Son imperméabilité au scandale, c'est quand même quelqu'un qui a été condamné à quelques reprises pour incitation à la haine raciale. Voilà, il a un bagage judiciaire, un peu à l'image de Trump, qui, en temps normal, pourrait, peut-être même devrait disqualifier quelqu'un dans une campagne électorale. Lui, ça n'a pas l'air de l'avoir énormément... affecté. Ce qui est intéressant, malgré donc cette nouveauté, puis c'est un orateur brillant. Ça, je pense qu'il faut pas le négliger, surtout dans la joute télévisuelle, dans un meeting à l'extérieur sur une grande scène.
On n'a plus
charismatique, et puis semble-t-il, il a des problèmes d'audition. Voilà, quand ses militants crient Macron assassin, il n'entend pas. Mais bon, c'est un peu gênant.
C'est de la sourdité sélective.
Sourdité sélective. Mais dans un débat, il aurait pu être très, très. Enfin, voilà, il a ce.
Il a l'habitude des plateaux de télé.
Voilà. Mais alors, et ça lui faisait penser qu'il serait un meilleur candidat que Marine Le Pen, parce que l'un des éléments qui l'a poussé à se présenter, dit-il, c'est la performance, vous en souvenez peut-être, catastrophique de Marine Le Pen au débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle en 2017, où, semble-t-il, Zemmour a dit c'est pas avec une personne comme ça que les idées que l'on défend auront une chance d'arriver au pouvoir. Donc, lui s'imagine plus brillant qu'elle et voilà, s'imaginer dans un débat pouvoir mettre la raclée à tout le monde. Sauf que la campagne électorale, elle ne s'est pas passée comme il l'espérait. Il n'y a pas eu beaucoup de débats au final. Et en fait, je pense qu'ils n'ont même pas débattu tous ensemble en même temps.
Non, parce qu'il y avait eu en 2017, je pense, c'était un vrai débâcle. C'était pas très bon, les débats. Là. Il y avait trop de monde en même temps.
Ouais. Justement, en fait, le débat en 2017, c'était une exception. En fait, c'était la première fois où on voyait en fait le président qui allait. En fait, il n'y avait pas de président, vu que François Hollande n'était pas présenté. Il dit, moi, je ne me représente pas. Donc, tous ceux, les candidats et les candidates en 2007, c'était des nouvelles. Ou c'était déjà leur première course, mais ils n'avaient jamais été au second tour en soi ou au premier tour. Donc, c'est une nouveauté. Donc, c'est là où il y a eu la cacophonie, justement, je pense que c'était 11 candidats. Et on a sorti, justement, Philippe Poutou, qu'on va revenir, entre autres. Mais, donc, en fait, Macron, en disant, je ne veux pas faire de débat pour cette élection, ce n'est pas nécessairement nouveau. Bon, est-ce que ça pose problème sur la tenue des débats, des échanges et des conflits, on peut en discuter. Mais effectivement, je pense que Zemmour a perdu, entre autres, des points. Un, parce qu'il n'y a pas de débat, donc il n'y a pas d'échange directement avec des candidats. C'est juste des plateaux où on présente. Et de deux, tout simplement, en fait, il y a la question en fait, des réfugiés ukrainiens aussi qui a comme fait perdre quelques points, entre autres. Là. Donc, je résume très vite. Il a juste dit, moi, je ne vais pas prendre personne qui vient d'Ukraine. Et c'est peut-être ça, en fait, qui lui a fait perdre, entre autres, une bonne partie. Ils se sont peut-être, ces gens-là se sont peut-être ralliés, en fait, plus vers Marine Le Pen, qui était aussi à 15-18% avant pour nous remonter. On est à peu près à 20-22% en ce moment, au moment de l'enregistrement.
Mais justement, passons à Marine Le Pen. Puis d'ailleurs, je ne pensais pas dire ça, parce que justement, Marine Le Pen est moins à droite que Zemmour. Et peut-être, je ne sais pas, mais elle semble être une droite plus raisonnable.
Oui, mais c'est comme un emballage. Je dirais que ce serait un emballage différent. mais puisqu'elle connaît les plateaux, elle connaît aussi la joute politique, elle est là depuis longtemps.
Ouais, mais ça fait longtemps qu'on entend parler de Marine Le Pen.
Oui, mais c'est ça. Il y a son père qui a quand même eu une première expérience, entre autres en 2002, contre Chirac.
Ouais.
Après, elle-même en 2017, et je pense qu'elle-même, elle a appris, elle a reconnu elle-même que son débat était catastrophique. Et elle a relativement bien joué, en fait, ses cartes. Elle n'a juste pas parlé de la question de l'immigration, entre autres, parce que la question est presque conquise, ou si on veut, il y a d'autres gens, le paratonnerre, justement, Zemmour, qui en parlent. Puis après, il y a d'autres questions sur le pouvoir d'achat qui intéressent, effectivement, en moment où il y a de l'inflation, une crise, en fait, des ressources et le portefeuille directement des Français et Françaises qui est touché.
Ouais, elle a très bien joué. Depuis qu'elle a pris la tête du parti de son père, son objectif, c'est d'adoucir l'image de ce parti d'extrême droite, qui reste un parti d'extrême droite.
Mais ça, c'est le rendre moins polémiste. C'était dans ce sens-là un peu peut-être moins polémiste.
Déjà, elle a changé le nom. Le Rassemblement national, c'était le Front national. Rassemblement et Front, ça n'a pas tout à fait la même connotation. Elle-même est beaucoup plus douce, sous les apparences, et évidemment. Elle est plutôt habile aussi, normalement, dans la joute politique, dans les débats. En meeting, à la différence de Zemmour, elle est quand même assez charismatique. Et elle a réussi... présenter un côté social qui peut rassurer une partie de l'électorat dans un contexte notamment d'inflation, de préoccupation sur pouvoir d'achat, de rejet aussi de certaines mesures qui peuvent être avancées par exemple par Macron et qui peuvent être perçues comme étant trop libérales hein, au sens économique du terme, ou trop strictes. Par exemple, dans le programme de Macron, vous avez cette idée que le revenu de solidarité active, l'une des aides qui sont offertes par l'État français, doit être conditionnelle ou conditionnée à une activité, alors que ce soit un emploi à temps partiel ou une formation ou quelque chose comme ça. Marine Le Pen, en fait, depuis des mois, elle a presque disparu des écrans radars. C'est ça qui est assez intéressant. Et faire le dos rond comme ça, ça l'a servi parce que, oui, Zemmour a entretenu la ferveur d'extrême droite anti-immigration et anti-immigré. Donc, il y a cet électorat d'extrême droite, il est quand même mobilisé, il est mobilisable, notamment dans la perspective du second tour. Mais elle a réussi finalement à se normaliser à tel point qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle est une droite plus fréquentable, ce qui... il y a 20 ans à peine, lorsque son père était au second tour de l'élection présidentielle, c'était un cataclysme dans la vie politique française. Il y a eu des manifestations dès le soir du 21 avril 2002 à travers la France de gens qui étaient « c'est inadmissible, ça ne peut pas arriver dans un pays démocratique comme la France, blablabla ». Chirac avait été réélu avec un taux qui rendrait jaloux ou qui aurait pu humilier Vladimir Poutine de nos jours. Mais en 2017, elle est arrivée au second tour, c'était quasiment normal. Et aujourd'hui, c'est dans l'ordre des choses. Donc, elle a réussi son pari de normaliser son parti politique sans pour autant en faire nécessairement une force qui serait capable d'exercer le pouvoir. Parce que je parlais tout à l'heure de l'importance aussi des élections législatives. Il y a des élus, Rassemblement national, mais ils n'ont pas réussi vraiment à développer leur ancrage territorial. Et ils ont du mal, un peu à l'image peut-être de La République en marche, mais beaucoup plus d'ailleurs, à faire élire beaucoup d'élus sur le terrain. Et alors oui, elle a normalisé son image, elle apparaît comme l'opposante numéro un à Emmanuel Macron ou à toute forme finalement de politique traditionnelle ou de parti politique plus traditionnel, et à tel point qu'aujourd'hui, vous regardez les projections de second tour, ça augure d'une lutte, d'une lutte assez serrée. Donc peut-être la surprise Trump, elle ne viendrait pas de Zemmour, même si on l'a beaucoup comparé à Trump, mais de Madame Le Pen.
Et justement, si on continue, il y a la droite justement qui, face à cette extrême droite qui monte, s'écroule en fait en quelque sorte avec en ce moment Pécresse en fait avec les Républicains. Donc c'est impressionnant.
Oui, c'est assez impressionnant, d'autant plus que lorsque le parti Les Républicains a choisi au mois de décembre d'investir Valérie Pécresse comme sa candidate, ça paraissait comme un choix intéressant. Pourquoi ? Alors, au premier, parce qu'il y a eu deux tours, donc là aussi, pour cette élection, enfin, cette investiture au sein du parti. Au premier tour, celui qui est arrivé en tête, c'est le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, qui est une sorte de mini Zemmour ou de caniche de Marine Le Pen, je ne sais pas comment vous pouvez le voir, mais disons qu'il représente la droite de la droite du parti Les Républicains, hein, qui a des positions qui doivent ressembler à Zemmour sur l'immigration, par exemple. Je veux dire, il est très... la loi et l'ordre, hein, l'identité française, enfin, c'est carrément une caricature.
Sa grande différence, c'est que lui n'a pas été condamné.
Oui, c'est à peu près ça. Ça serait peut-être ça. donc, il est arrivé en tête au premier tour et on s'est dit, ben, là, les Républicains, ils courent quand même le risque d'être à la remorque de l'extrême droite et d'essayer de rattraper l'extrême droite sans avoir la vertu d'être le produit original. Et ils ont préféré choisir Valérie Pécresse, qui représente traditionnellement une droite beaucoup plus modérée. Elle est normalement pro-européenne. Elle est quand même présidente de l'une des régions, ce n'est pas la région la plus puissante d'Europe en termes économiques, la région Île-de-France. Donc, elle pouvait faire valoir d'une expérience de gouvernement qui n'est quand même pas négligeable et qui l'a distingué, par exemple, d'Emmanuel Macron. Bon, mais il avait été ministre quand même et conseiller de Hollande avant, mais il n'avait pas d'expérience politique avant de se lancer dans la campagne en 2017. Et elle avait aussi la chance de pouvoir s'appuyer sur un parti, Les Républicains, qui est quand même assez bien structuré, qui lui a un vrai ancrage local, qu'il a réussi à maintenir. On regarde notamment les élections municipales, ils s'en sortent plutôt bien. Et en plus, c'était une femme. Donc, elle pouvait représenter quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, peu après son investiture, dans les premiers sondages, elle était plutôt bien. Enfin, elle pouvait être en compétition, elle pouvait aspirer à être dans la lutte pour être qualifiée au second tour. C'était plutôt bien parti, c'était intéressant. Le problème, et là, la campagne, il y a fait énormément de mal, c'est que elle est catastrophique en campagne.
Okay.
Elle l'a pas. Ce qui a peut-être pulvérisé ses chances, c'est son premier grand meeting le 13 février.
Tout le monde en parle de ça. Allez voir les images, si vous écoutez ça, c'est un échec assez incroyable.
Oui, oui, et vous avez peut-être vu des montages. Il y a une émission populaire en France, la C'est à vous, sur France 5, dont l'un des chroniqueurs humoristes, d'ailleurs, rend hommage à Céline Dion, notre Céline nationale, avec la chanson I'm Alive, je pense. Et il fait un montage. Et je pense que ça colle à l'image de Valérie Pécresse. Et à chaque fois qu'elle sort, elle est très bonne dans ses dossiers. Elle est certainement assez charismatique. Mais dans son entourage, il y a des gens qui ont voulu lui faire faire une campagne comme on faisait faire une campagne à Nicolas Sarkozy, par exemple. Mais ce n'est pas du tout sa personnalité. Elle est nullissime sur scène.
C'est parce que son parti, c'est le parti de Nicolas Sarkozy. Fait que ça...
Il y a des factions.
Et ce n'est pas la candidate de Nicolas Sarkozy, parce que vous aurez peut-être constaté que Nicolas Sarkozy, alors je ne sais pas, peut-être il a annoncé son soutien pendant qu'on enregistre, ou il le fera d'ici dimanche, mais il n'a pas manifesté son soutien explicite à la candidate du parti. Ce qui pose problème. Elle l'a rencontré il y a quelques semaines dans l'espoir qu'il se prononce. Alors, semble-t-il que les deux ne sont pas les meilleurs amis du monde. Sarkozy est probablement plus proche d'appuyer Emmanuel Macron que Valérie Pécresse. Mais son problème à elle, ça a été honnêtement la campagne qu'on lui a imposée. Alors, est-ce qu'elle n'a pas su prendre les décisions qu'il fallait ? Elle fait des discours en meeting qui sont affligeants, tellement les punchlines sont... Enfin, c'est une caricature, c'est terrible. Et elle a aussi le problème qu'au sein des Républicains, il y a une tension entre une droite modérée, centre-droite, qui est attirée par Emmanuel Macron, ce qu'il a fait Macron depuis 2017, il a siphonné cette droite du centre, plus centriste, et de l'autre côté, vous avez des gens chez les Républicains qui sont quand même séduits par ou Zemmour ou Marine Le Pen. et qui veulent aller vers la droite. D'ailleurs, il y a certains des républicains qui sont partis, notamment chez Zemmour, et elle s'est retrouvée un peu là, le parent pauvre, un peu au milieu du gué, ce qui fait qu'elle est quoi, quelque chose entre 8 et 9% d'intention de vote. Et selon toute vraisemblance, elle ne devrait pas être qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle.
Donc ils se font un peu aspirer. Puis cette division-là, et je vais tout de suite sauter à la gauche, ensuite on viendra avec Macron, parce que ça, à l'image de la droite, la gauche est aussi complètement éclatée en ce moment. Et si on fait un peu le tour rapidement, je commencerai peut-être par l'hiver avec Jadot, qui était en ce moment, je regarde, 5% environ. Donc, on va faire le tour un peu rapidement. Donc, comment...
Oui, alors Jadot, c'est assez intéressant parce que lui aussi, on aurait pu imaginer qu'il avait peut-être le vent dans les voiles et un contexte tout à fait propice. Je ne dis pas à se qualifier au second tour. Hein. Mm-hmm. Voilà, ce n'est pas demain la veille que les Verts en France vont être une force de second tour évidente, de la même façon que le Rassemblement national, par exemple. Mais Jadot pouvait entretenir, et les écologistes pouvaient entretenir un espoir, parce que notamment à ces fameuses élections intermédiaires, que ce soit les européennes, où ils sont arrivés en troisième position, je crois, c'est le troisième parti, après le Rassemblement national, La République en marche, enfin, du moins, le parti associé à Macron, et les Verts sont arrivés en troisième position. Ils avaient très bien fait aussi aux élections municipales en remportant des grandes villes comme Bordeaux et Lyon. Et vous avez quand même une urgence climatique qui n'a pas totalement disparu. Il y a quelques heures, quelques jours, le dernier rapport du GIEC remet quand même sur le devant de la scène l'importance de la lutte contre les changements climatiques. Et on aurait pu se dire, les écologistes doivent capitaliser sur ça pour aller de l'avant. Il n'a pas réussi. Peut-être le fait que la campagne soit anesthésiée par le contexte international n'a pas dû l'aider. Leur position aussi sur le nucléaire, je pense, les fragilise quelque peu. Et est-ce que lui-même est le meilleur candidat, le plus charismatique, ça reste à voir. Et chez les Verts, il y a aussi... Dans la gauche, en général, il y a beaucoup de divisions. Chez les Verts, il y en a encore plus. j'ai l'impression que, je ne sais pas moi, chez Projet Montréal, on n'est plus unis tout le temps.
Ouais, petit commentaire, justement, il y avait la primaire, puis on l'a vu dans la première ronde, c'était à peu près divisé en quatre blocs dans la primaire. Donc, il y avait comme quatre familles à l'intérieur même des Verts. Donc, ce n'est pas un bloc monolithique non plus. Il y avait aussi une autre raison pourquoi ils se présentent jusqu'à la fin, c'est parce qu'ils s'étaient ralliés derrière Hamon en 2017. Et Hamon a fait 6%. Et c'était la seule fois, justement, que les Verts ne s'étaient pas présentés à une élection présidentielle. Mm-hmm. Et là, ils se sont dit, ben, entre autres, avec cette élection-là, ben, plus jamais, on ne va pas se rallier avec justement quelqu'un qui va faire 6%.
Ouais.
Et on dirait qu'il va justement faire un autre 6%. Mais c'est ça. Donc, en fait, il y a de l'attention même, donc avec Sandrine Rousseau, entre autres, qui était le penchant plus écoféministe, qui finalement va être écarté du bureau politique, justement, des écologistes. Et avec la tendance qui se cristallise autour de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi d'autres personnes des cadres politiques qui sont soit tassées, soit qui s'en vont, mais on va reparler justement de Jean-Luc.
Au moins, ces verts-là ne font pas juste campagne à Toronto. Anyway.
Oui, mais justement, tu parlais du résultat catastrophique de Hamon, mais on va parler du résultat catastrophique, parlons du Parti socialiste qui s'en va vers un résultat mais d'une catastrophe incroyable avec Anne Hidalgo, ancienne mairesse de Paris.
Encore mairesse de Paris.
Encore mairesse
de Paris. Oui. Elle n'a pas démissionné de son mandat. Elle s'est juste mise en retrait. C'est la beauté du cumul des mandats et de la politique française.
Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ça, justement, de cet éclatement et de ce... Est-ce qu'on peut parler d'un effondrement du Parti socialiste?
Oui. Non, c'est le Parti socialiste... est en état de mort cérébrale, pour reprendre une expression qui avait été utilisée par Macron concernant l'OTAN, mais je pense qu'elle s'applique beaucoup plus au Parti socialiste, qui est probablement... Alors, ce n'est pas le seul, hein, le Parti social-démocrate qui a de la difficulté à se positionner sur des enjeux tels que la mondialisation, la redistribution des richesses, la lutte contre les inégalités, qui est tiraillé peut-être par des groupes qui sont plus dans cette mouvance woke, alors plus dans la promotion de droits tels les droits LGBTQ, par exemple, ou qui tiraillé aussi sur la question de la laïcité entre des partisans d'une laïcité à la française très stricte, que le Parti socialiste traditionnellement a cette position-là, contre des partisans d'une lecture de la laïcité ou d'une approche de la laïcité beaucoup plus ouverte, plus axée sur la liberté individuelle finalement. Donc c'est, idéologiquement, c'est un parti qui... moi, je vous dirais carrément depuis le tournant de la rigueur en 83 sous Mitterrand, qui intellectuellement se meurt. Donc c'est un peu le supplice de la goutte. Là, c'est une mort très 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 lente. Il n'a pas su se régénérer. Il n'a pas su se régénérer après la chute de l'Union soviétique. Il n'a pas su se régénérer après la non-qualification cataclysmique de Lionel Jospin pour le second tour de l'élection présidentielle en 2002, alors qu'il avait gouverné pendant 5 ans en étant à la tête d'une coalition, la gauche plurielle, qui avait quand même plutôt bien fonctionné. En termes notamment de croissance économique, alors il a eu de la chance peut-être. Bon, c'était une gauche plurielle qui avait quand même mis en place des privatisations d'une ampleur beaucoup plus grande que n'importe quel gouvernement de droite l'avait fait avant ou l'a fait depuis. Et évidemment, la dernière grande date ou période en date de cette crise du Parti socialiste, ben, c'est la présidence de François Hollande, au final de 2012 à 2017, qui s'achève quand même par l'incapacité pour François Hollande de se représenter pour un second tour auquel il avait droit, du fait même de l'opposition de son propre parti. C'est quand même pas fréquent, ça. Et dans l'histoire de la Ve République, si je me souviens bien, vite, c'était la première fois qu'un président était dans l'incapacité de se présenter parce que son propre parti ne le soutenait pas. C'est quand même fascinant. Et depuis, ce parti a plus d'argent. Et là, on se pose la question littéralement de sa survie. Parce que s'ils font moins de 5%, les frais de campagne ne sont pas remboursés. Il n'y aura pas de dynamique la dynamique sera très difficile à trouver pour l'élection législative. Donc s'ils n'ont pas d'élus, ils n'ont pas de groupe, ils n'ont pas non plus de financement public. Parce que c'est l'un des aspects aussi qui fait qu'il y a beaucoup de partis qui veulent absolument être présents à l'élection présidentielle. Elle est très importante et c'est ce qui vous positionne. Les Verts, vous le disiez très justement, veulent être là parce qu'ils veulent être une force qui compte après, soit par elle-même, soit dans le cadre de discussions pour reconstruire la droite. Et alors évidemment, la cerise sur le gâteau pour le Parti socialiste, ça a été de se donner Anne Hidalgo comme candidate à l'élection présidentielle. Alors j'étais un peu dur peut-être pour Valérie Pécresse, avec Valérie Pécresse, mais Anne Hidalgo, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'était pourtant intéressant. On avait dans cette élection-là 3 grands partis, dont 2 partis traditionnels de gouvernement, qui avaient désigné des femmes comme candidates. Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo. C'était bien. Enfin, historiquement, c'était intéressant.
C'était quelque chose de différent.
Voilà. Et le problème, c'est que les 2 dernières cités, donc Hidalgo et Pécresse, elles font une campagne... Voilà, et si Hidalgo fait 2%, ça sera déjà pas mal. Il y a quelques-uns des socialistes là, de son équipe de campagne qui pensent encore qu'elle peut créer la surprise.
Bon, voilà. Ce serait toute une surprise.
Oui, c'est dans le multiverse. Ils ont dû regarder le prochain Doctor Strange en avance.
Ouais, mais je mentionne qu'il y avait quand même Ségolène Royal en 2012, mais c'était l'exception en tant que telle parce que c'est une routarde aussi du Parti socialiste. Ouais. C'est pas non plus quelqu'un qui avait d'autres fonctions différentes.
Ça, puis il faut dire que la présidence de François Hollande n'a pas... en tout cas, j'ai parlé à des amis français, puis ils n'étaient pas très chauds à l'idée d'avoir François Hollande comme président.
Ah, pourtant, il avait fait une campagne habile en 2012 avec sa présidence normale.
Durant sa présidence, les gens n'étaient pas très contents.
Cette obsession chez Hollande, c'est cette obsession du compromis et de ne pas faire des vagues. Ce qui lui a permis d'être à la tête du Parti socialiste pendant des années... je pense que ça a été l'un des premiers secrétaires dont le mandat était le plus long, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'il arrivait à faire cette synthèse ou à diviser pour régner, je ne sais pas comment il faut le voir. Mais une fois au pouvoir, ça ne fonctionne pas. En plus, il a eu des petits soucis
personnels.
Les croissants, justement. Ouais, on en parlait au début, les croissants lui ont joué des tours. pas parce qu'il les a tous mangés. Hein. Là, je ne ferai pas mauvaise langue. Quoi qu'il en a mangé pas mal.
Il les a partagés.
Voilà, c'était le problème d'aller partager. Après, son bilan a été délicat.
Giroux, mais rapidement, parce que le temps.
Oui, non, c'est ça. Mais en fait, il y avait aussi Valls là, qui a contribué. Mais il y a quelque chose qui me manque, c'est Macron, en fait, qui a dynamité justement, un, les macros compatibles, si on veut, l'aile droite du PS et l'aile gauche, si on veut, des Républicains qui se sont relativement reliés à lui avec 2017. Et il y a même, en fait, justement, en ce moment, ça continue. Donc, il y a même un parti qui, techniquement, se forme depuis une semaine. C'est le Front, pas Front républicain, Refonte républicaine. Donc, c'est d'autres, en fait, anciens du Parti socialiste qui disent qu'ils vont voter pour Macron à cette élection et donc qu'ils vont former un parti. Mais il faut mentionner aussi que Hollande, en fait, il y a le dernier meeting des Hidalgo, disait que c'est lui qui va probablement refondre l'aile gauche du Parti socialiste et toute l'aile gauche. Donc, je pense qu'il y a un petit regret, je pense, de ne pas représenter finalement. Et je pense qu'il veut revenir en politique.
Mais Hollande aurait envisagé, semble-t-il, au mois de décembre, à tester l'idée de se présenter comme candidat sauveur de secours pour le Parti socialiste.
Sous les commentaires et l'impulsion de Olivier Faure, justement, ce premier secrétaire général du Parti socialiste.
Mais est-ce qu'il y aurait eu plus de chance? Parce qu'au-delà, par exemple, de Hidalgo, des fois, est-ce qu'un autre, un ou une autre candidat aurait pu faire une différence? En même aussi, il y avait Christine Taubira qui a été proche et quand même bien aimée d'une certaine gauche et tout. Est-ce que c'est carrément le Parti socialiste n'a plus sa place? Un peu comme les Républicains, parce que après, on va en parler. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui a le vent dans les voiles totalement à côté. Est-ce qu'il y a réellement une place, votre analyse, rapidement?
Très vite. Il aurait probablement fait mieux qu'Anne Hidalgo, mais probablement bien. Je ne dirais pas qu'il aurait dépassé les 10% non plus. Ça m'étonnerait.
Hollande, il aurait peut-être fait 4%.
Voilà, mieux qu'Hidalgo.
C'est mieux qu'Hidalgo. C'est deux fois plus qu'Hidalgo. Non, c'est triste. Parce que c'est quand même un grand parti de gouvernement, le Parti socialiste, qui a contribué à pas mal de choses, au progrès social quand même en France. Même si ça a été sujet à débat, même si c'est peut-être pas parfait. Voilà, il est porteur d'idées, il est porteur de traditions. Lui aussi, il a une connaissance des rouages gouvernementaux qui en fait une force qui devrait être importante dans le paysage politique. Et Guérou l'évoquait, il est siphonné, et au même titre que les Républicains, par Macron. Et finalement, la social-démocratie française aujourd'hui, ou le centre, donc peut-être l'équivalent d'un parti libéral au Canada, mais c'est clairement Macron. Et il a réussi à l'organiser autour de lui, peut-être pas à le structurer sous la forme d'un parti qui soit aussi efficace que les Républicains ou le Parti socialiste en son temps, mais au niveau des idées, la synthèse, elle se fait là, ce qui est par conséquent, ouvre un espace politique autant à la droite extrême qu'à la gauche.
Oui, oui. Rapidement sur cette gauche, Mélenchon, comment lui c'est un routier aussi quand même.
Lui, ça fait très longtemps qu'il est en politique.
Mais là aujourd'hui, on dirait qu'il n'a jamais été aussi proche d'un. Est-ce que...
Oui, ça ressemble à 2017. Il a eu une bonne dynamique en 2017. Alors, en 2017, c'est marrant parce qu'il avait peut-être l'image de la nouveauté aussi. Bon, alors qu'il n'était pas du tout nouveau dans le paysage politique. Hein. Il y a 40 ans qu'il est en politique. Lui, il a eu à peu près toutes les fonctions. Sénateur, député, il change comme ça. Un coup, il est dans le Nord. Un coup, il est à Marseille. Un coup, il est je ne sais pas où.
Député européen également.
Voilà, il voyage beaucoup politiquement. C'est un vrai professionnel de la politique, comme on en a beaucoup en France. Ce qui le sert en campagne électorale, c'est que c'est un tribun.
Voilà. Très connu pour ça, d'ailleurs.
Voilà, et je pense qu'il séduit par cette capacité à avoir le verbe haut, la formule efficace. Ses idées, je pense, n'ont pas changé d'un iota par rapport à 2017. Il ne serait pas plus apte à gouverner qu'en 2017, nécessairement. Il a eu quand même des propos sur l'Europe ou même sur l'Ukraine. Le 13 février, il appelait carrément la Russie à pulvériser l'Ukraine. Bon, ça n'y a pas totalement servi. Il y a quelques années, il parlait des États baltes en disant que les Lituaniens, les Estoniens comme ça, personne s'en préoccupait, que de toute façon, on n'en avait rien à cirer.
Pourtant, ils font partie de l'OTAN maintenant.
Oui, ouais, ça c'était des propos avant 2004, avant qu'il justement il rejoigne l'Union européenne et l'OTAN.
Il est un peu un peu difficile à suivre parfois, peut-être, Mélenchon, même si il a cette capacité à mobiliser une partie de l'électorat de gauche. Et d'ailleurs, vous évoquiez Christine Taubira tout à l'heure. Bon, elle a aspiré, par un processus un peu bizarre, à incarner la gauche. Elle a échoué. Mais son électorat se retrouve, et je pense que d'ailleurs ceux qui avaient organisé la primaire populaire se sont rangés assez significativement derrière la France insoumise et derrière Mélenchon. Donc ça peut expliquer un peu pourquoi Mélenchon, il a longtemps tourné, là, si vous regardez les intentions de vote, autour de 10-11%, ça décollait pas trop. Puis là, depuis quelques semaines, notamment depuis le retrait de Mme Taubira, il est plus aux alentours de 16%, donc c'est le troisième homme, ce qui le positionne là où il était encore une fois en 2017. Hein. Lui est convaincu qu'en 2017, il aurait dû être qualifié au second tour, il a fini troisième. Voilà, il râlera peut-être encore assez significativement. Beaucoup.
Quatrième. Il était quatrième après, derrière les. Mais bon, c'était tous.
C'était très peu.
Les trois, justement, derrière Macron étaient à peu près à 1% chacun. Ouais, c'est vrai, c'était vraiment super serré.
C'est vrai, j'avais oublié. Ouais.
Et puis, rapidement, plus à gauche, ben, il y a le Parti communiste français qui s'est justement séparé de Guillaume, tu disais avant l'enregistrement de.
Ben c'est ça. En fait, le Parti communiste est là depuis très, très longtemps. C'est juste que depuis des élections en 2012 et en 2017, c'était rallié à la France insoumise. Mais là, cette fois-ci, ben, ils font cavalier seul. Donc, une candidature, donc Fabien Roussel, qui a une augmentation quand même assez significative par rapport à son score initial dans les intentions de vote. Ça reste, par exemple, au total, si on fait le cumulatif, assez minimum, assez petit. Là, je pense qu'on est à 5%, plus ou moins 1% avec, si on regarde les sondages très vite.
Ouais. Alors c'est assez intéressant parce que ça montre qu'il y a encore un parti communiste français qui existe, qui suscite une certaine sympathie parce que son candidat manifestement est sympathique. C'est un peu l'une des bonnes surprises de cette campagne électorale. Hein. Je veux dire, il est marrant. Bon, il parle beaucoup de la viande, du vin, de la bière, parce qu'il est du Nord, dit-il. Il fait quelques petits lapsus où il confond... voilà. Pas mal de choses que je ne dirai pas, surtout si vous êtes au petit déjeuner. mais c'est la bonne surprise. Et alors, si on imagine en report des voix, c'est peut-être lui qui va priver finalement sa bonne campagne, qui va priver Mélenchon d'une possible qualification pour le second tour. Si on prend comme postulat qu'il y aurait un report automatique des voix, c'est facile à imaginer comme ça quand on regarde les sondages. Dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment. Mais oui, il existe encore ce Parti communiste français et la gauche anticapitaliste en général, parce que finalement, ils sont trois représentants de cette gauche anticapitaliste. Elle existe encore, même s'il n'y a plus de mouvement communiste, même en Chine. Il n'y a que le nom en Chine, il n'y a plus les idées. Ben, en France, il y a encore les idées... Voilà, ça fait partie peut-être aussi des défis que connaissent les mouvements sociaux-démocrates français ou la gauche pardon, plus social-démocrate à se redéfinir parce qu'il y a encore cette gauche anticapitaliste qui est symboliquement forte, je ne vais pas dire politiquement forte, je vais dire ou intellectuellement encore forte, alors que dans les autres pays européens, les partis de gauche reviennent au pouvoir finalement et se sont bien réajustés, ont repris... du poil de la bête, il n'y a que finalement en France qu'ils ont l'air, l'air un peu perdus, à moins de considérer que, encore une fois, la social-démocratie, c'est Macron.
Ben, je voulais revenir aussi un peu très vite sur les élections. En fait, il y a aussi comme le fait qu'il y a 12 candidatures. Ben, statistiquement parlant, pour rentrer au seuil du deuxième tour, ben, c'est assez bas. En fait. Et on le voit en fait, juste par l'intention de vote. Si 20%, donc une personne sur 5 peut vous appuyer et ça vous donne la légitimité pour aller au second tour, ça en dit beaucoup sur, en fait, qu'est-ce qui se passe avec l'autre 80% des gens qui n'ont pas voté pour vous. Ou, en fait, bon, là, c'est deux personnes, donc c'est à deux seuls, c'est près entre 40 et 50% si on accumule un bon score de Macron puis un bon score de Le Pen. Donc, c'est quand même plus de la moitié des gens qui n'ont pas voté pour vous. Et après, on a ce choix-là assez particulier, en fait, les Français, les Françaises, pas moi, le choix-là de décider, en fait, entre deux personnes qui, au premier tour, la grande majorité n'a pas voté pour. Et c'est assez particulier.
Oui, ouais, ben, c'est un peu. Il y a toujours des effets comme ça dans les élections. Parce que si on regarde, par exemple, une élection uninominale à un tour, vous pouvez gagner finalement en ayant aussi un score relativement faible. Si vous gagnez, que vous êtes élu, ben, on le voit d'ailleurs, vous obtenez 30% des suffrages, vous avez une majorité. Ça veut dire que 70% des gens n'ont pas voté pour vous. Donc, il y a toujours cet effet-là. C'est sûr que plus il y a de candidats, plus le seuil pour se qualifier est faible. Je pense que c'est l'un des effets peut-être pervers ou imparfaits du système. Mais le truc, c'est que tout le monde connaît la règle. Après, c'est vrai que la vraie campagne, on a le sentiment qu'elle va commencer dans l'entre-deux-tours, pour le second tour, c'est là que les gens vont être peut-être plus attentifs. Est-ce qu'il faudra compter sur le report des voix? Ça ne sera peut-être pas évident et ça ne sera certainement pas aussi simple que de faire des additions à l'issue des résultats du premier tour. Mais en ayant un seuil très bas, ça ouvre la porte aussi à des surprises, parce que finalement, il suffit de... quelques changements, alors que il y a deux quand même tendances qui semblent se dessiner dans cette élection, que sont la forte abstention et comme en 2017 d'ailleurs, la grande incertitude ou la grande volatilité des électeurs encore à quelques jours du vote. Il y a beaucoup de gens qui peuvent encore changer, donc il y a un certain suspense pour ce 10 avril.
Ouais. Après, on va passer à Macron, mais il reste Poutou, justement, qui s'était fait connaître aux dernières élections pour une grande station. D'ailleurs, Guérou, c'était quoi la station exacte?
Nous, on n'a pas l'humilité ouvrière.
Exactement.
En fait, c'est une référence, justement, au déboire judiciaire de Fillon et de Marine Le Pen, justement, à l'Union européenne. Mais en fait, justement, c'était assez particulier comme ces petites candidatures, je veux dire, même si toute candidature est légitime parce qu'ils ont les 500 parrainages, mais c'est comme un exutoire, si on veut, de certaines gauches, ou au moins d'un soulèvement un peu plus populaire, que ce soit même à la droite, de dire sans la parole présidentielle, sans la posture présidentialiste, de dire quand même des bonnes petites tacles, des bonnes petites phrases qui pincent, qui grincent. Et on l'a vu justement durant les débats en 2017 et aussi dernièrement, en fait, dans l'émission de France 2, l'émission politique.
Oui, il passait juste avant Éric Zemmour. Puis quand il a dit que Zemmour, il a dit c'est
lui. Ah oui, le raciste xénophobe et celui qui a été accusé plusieurs fois d'agression sexuelle. Voilà. Juste avant qu'il passe. Et on est en direct notamment à la télé. Donc, c'est le genre de petites phrases-là que Poutou, entre autres, est connu. Et ça amène indirectement aussi un vent de fraîcheur dans cette structure de débat qui est assez rigide.
Il faut oublier que Poutou est un ouvrier à la base. Donc,
Oui, en fait, il ne travaille plus. Il est même au chômage. Avant, il travaillait pour l'usine Ford en France. Mais c'est ça. Donc, c'est quelqu'un littéralement qui n'est pas sorti de l'ENA ou des grandes écoles. Donc, vraiment quelqu'un qui... de la classe sociale plus modeste.
Oui, à l'image de Nathalie Arthaud, d'ailleurs, qui est l'autre candidate.
Lutte ouvrière.
Lutte ouvrière, donc la gauche anticapitaliste.
Oui. Et maintenant, le dernier, non le moins, lui qui définitivement se retrouvera au deuxième tour, sûrement, à moins d'une immense surprise, et celui qui occupe tout le centre, justement, et qui vient un peu éclater un peu tout ça, Emmanuel Macron, président sortant. Et ensuite, on va parler un peu rapidement des grands enjeux de cette campagne, mais Emmanuel Macron, donc, bien en selle, en fait, dans cette campagne, quand même.
Oui, il devrait se qualifier pour le second tour. Il n'a pas fait une campagne terrible, notamment une fin de campagne qui est un peu en roue libre, j'aurais tendance à dire. Le seul meeting qu'il a fait en fin de semaine dernière en région parisienne ne dégageait pas une énergie telle qu'on a pu lui connaître, par exemple, en 2017, pour avoir un peu suivi le meeting. Il avait l'air fatigué, ou peut-être pas concerné, parce qu'il faut avoir en tête un élément. C'est que la stratégie... Il y a eu un long débat dans l'entourage de Macron sur comment aborder cette élection présidentielle. Parce qu'il faut quand même reconnaître que dans l'histoire de la Ve République, il n'y a pas eu un président qui a été réélu dans des circonstances normales, dans le sens où vous aviez un président qui a exercé le pouvoir pendant l'intégralité de son mandat, qui se présente pour obtenir un autre mandat. Vous allez me dire, Mitterrand et Chirac ont été réélus, sauf que Mitterrand a été réélu après une période de cohabitation de 2 ans, et Chirac, on l'a dit tout à l'heure, a été réélu après une période de cohabitation de 5 ans qui faisait que, grosso modo, il ne faisait rien. Bon, il s'occupait de politique étrangère et de politique de défense, pas tout à fait rien, mais... en plus, dans un contexte où il s'est retrouvé face à Jean-Marie Le Pen. Là, ça serait... il est face à un défi qui est quand même significatif d'être un président donc, qui a exercé pleinement le pouvoir pendant toute la durée de son mandat, qui aspire à un second mandat. Manifestement, avec cette volatilité extrême de l'électorat français, ce goût du dégagisme, hein, on va essayer quelque chose de nouveau, mais s'il propose des changements, on va le dégager parce qu'on aime la nouveauté, mais on n'aime pas le changement. C'est Alain Duhamel qui, il y a quelques semaines, a utilisé cette expression que je trouvais assez intéressante. Les Français aiment la nouveauté, mais n'aiment pas le changement. Je trouvais que c'était pas mal. Il est normalement bien positionné, oui, parce que ça, il y avait un débat sur la stratégie, d'ailleurs, qui a été réfléchi dès son élection en mai 2017, savoir comment on abordait ce défi d'une élection pour un second mandat. Ce sur quoi ils se sont arrêtés, ça a été sur l'idée d'enjamber l'élection, c'est-à-dire de faire en sorte que finalement ça soit un non-événement et que ce soit perçu de façon quasi naturelle qu'il obtienne un second mandat. D'où la volonté de se déclarer le plus tard possible officiellement candidat, comme l'avait fait d'ailleurs François Mitterrand en 88.
Il n'y a pas eu aussi le fait que la guerre en Ukraine, c'était quelques jours avant.
Voilà,
aussi.
Et évidemment, cette idée de retarder, elle a été encore plus mise en œuvre parce que, un, il y a eu la 5e vague de Covid avant. Oui. Et il disait, je veux que la 5e vague soit sous contrôle pour me lancer. Et après, il y a eu le télescopage, évidemment, de la guerre en Ukraine. Ça fait qu'il a officialisé sa candidature le dernier jour, à quelques heures ou la veille du dépôt officiel des candidatures au Conseil constitutionnel. On aurait pu imaginer que et le contexte de la Covid et le contexte de la guerre en Ukraine renforcent cette idée de faire de l'élection un non-événement. Semblait plutôt bien marcher jusqu'à il y a quelques jours, manifestement, puisque les sondages le donnaient assez nettement en tête au premier tour, ce qui aurait été quand même un gain pas tout à fait négligeable. S'il avait eu 30% de voix au premier tour, c'était 6 points de plus qu'en 2017. Pour un président qui a quand même été un peu contesté pendant 5 ans, ça aurait été finalement pas si mal. Sauf que, je disais, sa campagne sur la fin, elle semble manquer de dynamisme. Il y a eu son refus de participer là, à cette émission sur France 2 qui peut donner ce sentiment qu'il prend les choses pour acquises et qu'il fait preuve d'arrogance. Et ça renvoie peut-être à une des faiblesses de son image, ce banquier un peu éloigné des gens, qu'il met probablement plus en difficulté qu'il aurait dû être et donc qui ouvre une période d'incertitude, alors même que pour le bien de la 5e République et des institutions politiques françaises, ça serait pas mal qu'un président obtienne un deuxième mandat. Parce que changer tous les 5 ans, c'est peut-être pas non plus l'idéal. Après, en plus, ça dépend pour qui vous changez, évidemment. Ça va être tout son défi. S'il est qualifié au premier tour, on peut imaginer... C'est ainsi important. Donc, quand vous reparlerez de l'élection présidentielle dans l'entre-deux tours, là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un président qui soit beaucoup plus candidat s'il est qualifié, qui prenne la mesure et qui participe au débat traditionnel dans l'entre-deux tours.
Deux petits commentaires, justement. En fait, il n'a pas fait quelque chose de mal, mais il n'a pas non plus éclaté dans cette campagne. Donc, il n'a pas fait de bourde en soi. Mais il n'y a pas fait non plus, justement, dans le meeting, c'était un meeting comme bien normal. Je ne pense pas qu'il va nécessairement rester dans les annales comme étant un des meetings les plus pertinents. Mais deux, ce qui me surprend, c'est que malgré justement toutes les contestations, il n'y a rien des 5 dernières années qui lui a vraiment collé à la peau durant cette campagne. On a parlé des Gilets jaunes, c'est quand même presque un mouvement populaire qui a duré 2 ans. Il y a eu quand même beaucoup de violences policières, des violences de manifestants. En fait, c'était un grabuge, ça a quand même, durant cette période-là, brassé. Et ce n'est pas un sujet qui revient. et ça ne revient pas. Même la suppression de l'ISF, elle est mentionnée, mais ça ne reste pas, ça ne colle pas. Mackenzie Gate, ça revient, mais c'est surtout sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas nécessairement sur les plateaux qu'on l'entend beaucoup. Sur Twitter, on le voit. Donc, c'est, je ne sais pas si c'est une force en soi de Macron ou c'est une... ou c'est la posture, ou c'est le poste en soi de la présidence qui lui confère, entre autres, une espèce de chemise ou un écran d'invisibilité ou de protection tout simplement supérieure, où rien lui colle, en fait.
Oui, ouais, ou peut-être ses adversaires n'arrivent pas non plus à trouver l'angle pour le déstabiliser. Je dirais que alors, la question des gilets jaunes, elle y revient peut-être pas directement, mais assez indirectement par cette question du pouvoir d'achat et du retour de l'inflation, qui est évidemment illustrée de façon éclatante par l'augmentation du prix de l'essence, qui est peut-être encore plus traumatisante pour les Français que ce qu'on peut voir ici à la pompe au Québec. Donc ça peut venir le hanter, cette question... qu'il s'intéresse assez peu à la protection du pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. C'est ce sur quoi essaye de capitaliser, par exemple, Marine Le Pen avec son discours social. Alors, dans sa campagne, c'est vrai qu'il ne fait pas de faute. Voilà, il n'a pas fait de bourde monumentale. Il prend quand même le risque de proposer des choses... tels que le report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, qui normalement devrait stimuler un électorat qui n'aime pas ça, donc qui serait peut-être plus à gauche. L'idée d'avoir une activité pour obtenir certaines allocations sociales, ça pourrait être aussi l'objet de contestations. Il proposait le versement à la source de diverses aides sociales pour rééquilibrer. Alors, ils ont essayé de faire le parallèle entre le prélèvement des impôts à la source. Ça a été l'une des grandes réformes techniques en France au cours des cinq dernières années.
Au 21e siècle.
Voilà. C'était pas évident. C'était pas gagné que ça passe. Et parce que les Français imaginaient je sais pas trop quoi. C'est passé finalement très bien. Et tout le monde aujourd'hui, je crois, ça le recommande assez bien. Ils disaient, on prélève l'impôt à la source. On propose dans le prochain quinquennat, si on est réélu, de verser directement les allocations aux personnes qui en ont besoin, parce que l'administration fiscale est capable de recouper les informations et de savoir vous avez telle tranche de revenus, donc on va centraliser, vous n'allez pas faire les démarches. Ça aurait pu être d'ailleurs présenté comme une mesure sociale, tout à fait, je crois, pertinente, enfin, qui aurait pu être débattue de façon intéressante, mais il n'y a pas eu de débat. Et lui-même l'a un peu refusé en se concentrant sur cette figure de président. Il y a normalement une prime au sortant, mais c'est un peu dans toutes les élections, finalement, dans tous les pays. Vous avez un bilan à défendre, mais vous avez aussi la capacité de jouer sur les deux tableaux lorsque vous êtes en déplacement. Ça lui a d'ailleurs été beaucoup reproché, mais ça ne l'a pas non plus nécessairement affecté. Il a été assez stable. Donc, voilà. Mais il y a un certains frémissements là, dans les derniers jours de la campagne qui, je ne dis pas qu'ils suscitent une panique, mais qui fait en sorte que ce qui semblait être acquis il y a 10 jours, finalement, à 20h dimanche, heure française, je crois que les gens vont être plus devant leur écran de télévision, même si les chaînes de télé ne prévoient pas de grandes soirées électorales comme d'habitude, puisque je crois que c'est TF1, la première chaîne française, qui a décidé de diffuser les visiteurs. voilà, un grand classique. Wow. Donc, les électeurs qui seront déçus de ne pas voir Zemmour au second tour se rattraperont en écoutant les visiteurs.
Et justement, il ne semble pas avoir de grands enjeux. Est-ce que c'est ça que j'en sens ou qui semble former? Ou est-ce une campagne, justement, où...
Ouais, la question de l'urne, elle est très difficile à identifier. Mmh. On aurait pu penser il y a quelques semaines que ça allait être la gestion de la pandémie de COVID-19. Mmh. Est-ce qu'il y a eu des imperfections, des problèmes de gestion, une politisation trop grande de cette question-là. Ça n'est pas le cas, manifestement, parce que eux-mêmes, le gouvernement et Macron lui-même a aussi voulu désamorcer ça, notamment en prévoyant la levée de certaines mesures sanitaires, en ayant en tête le calendrier électoral aussi.
C'est un peu comme au Québec, donc.
Oui, à la rigueur, à la rigueur, j'aurais tendance à dire, c'est bien joué. Enfin, si vous pouvez jouer la carte, pourquoi pas la jouer, finalement, après tout. Mais ça aurait pu l'aider, manifestement, ça ne l'aide pas. Après, la guerre en Ukraine pouvait justement contribuer à cette idée qu'en situation de crise internationale, il faut se rallier derrière la figure présidentielle. Ça semble un peu s'essouffler parce qu'on a l'impression justement que la guerre, aussi terrible, atroce soit-elle, et je pense que ce n'est pas le cas uniquement en France, mais elle devient comme un élément normal du paysage dans les actualités. Alors, ça va faire plus de 40 jours.
Elle est loin.
Elle est loin, mais c'est comme si on l'avait intégrée finalement. Ben oui, aujourd'hui, il y a eu un nouveau massacre. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? C'est un peu comme les défaites du Canadien. Quoi. C'est plus personne s'en émeut. C'est un peu la normalité. Et j'ai l'impression que ça joue contre lui. Parce que ça atténue l'importance de ce dossier-là. Et ça permet de faire revenir d'autres enjeux qui sont très traditionnels dans les préoccupations de l'électorat français, notamment pour les élections présidentielles, tout ce qui a trait à ce fameux pouvoir d'achat, formulé de quelque façon que ce soit, c'est une préoccupation française fondamentale parce qu'il y a deux traits qui caractérisent la psyché politique des Français, c'est la défiance à l'endroit des institutions. On ne croit plus dans toutes les institutions, que ce soit les politiques, les journaux, l'université, tout ce que vous voulez. Et l'autre, c'est ce sentiment de déclassement permanent. Les Français aiment s'imaginer être au bord du précipice, être le pays qui va le plus mal dans le monde, en dépit d'indicateurs macroéconomiques ou d'une qualité de vie, au final, qui n'est quand même pas...
catastrophique.
Voilà, c'est pas non plus terrible. Et d'ailleurs, le taux de chômage est un niveau quand même... historiquement bas, en particulier le taux de chômage chez les jeunes. La croissance économique, c'est peut-être pas la plus remarquable en Europe, mais elle est solide. Le pays, enfin la France, a retrouvé quand même une voie sur la scène internationale qui n'est pas totalement négligeable non plus. Mais voilà, en dépit de tout ça, les Français, collectivement, même s'ils sont optimistes personnellement, collectivement, ils sont toujours pessimistes. Et ça, évidemment, quand vous êtes un candidat qui défend un bilan, c'est toujours difficile parce que vous portez la responsabilité de ne pas avoir rempli les aspirations de la population. Donc ça va être très dur de voir quelle est la question de l'urne, s'il y en a une vraiment. Est-ce que c'est un référendum anti-Macron? Ça va peut-être moins jouer que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Ça risque, s'il est qualifié au second tour, d'être plus un élément du second tour, par exemple. Et encore une fois, au premier tour, l'abstention risque aussi de jouer des tours. Et elle pourrait jouer des tours, d'ailleurs, à des candidats dont les prises de position séduisent notamment cet électorat qui ne va pas voter, notamment la classe ouvrière. Ça pourrait, par exemple, un peu embêter quelqu'un comme Marine Le Pen.
Et malgré tout ça, est-ce que si on se lance peut-être en termes de conclusion vers des petites prédictions, est-ce que quelqu'un veut se mouiller? Je vous laisserai vous y aller. Qui devrait se rendre en fait au deuxième tour selon vous?
Ben alors déjà, je vais faire une prédiction qui m'engage et qui est très 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 forte et très sagace et originale. Il y aura un second tour. Oui, parce que aucun des candidats n'aura 50 plus 1. Ça n'arrivera pas.
On s'entend, c'est un peu qui va affronter Macron.
J'ai l'impression qu'on va retrouver quand même. On est parti pour rejouer le même film qu'en 2017, en toute vraisemblance. Donc. Disons que si c'est pas les mêmes deux candidats au second tour cette année qu'en 2017, là, ça va être une grande surprise. Parce que même les Français. C'est ça qui est assez fascinant, sont convaincus, mais depuis peut-être le lendemain du second tour de 2017, que ça va être le même second tour en 2022, ce qui peut expliquer aussi un certain désintérêt par rapport à la campagne, en plus du contexte un peu bizarre, la Covid, la guerre en Ukraine. Je pense, je lisais récemment, 66% des Français sont convaincus que Macron va être réélu.
Ah, quand même.
Oui, mais ce qui est un peu bizarre, parce que... faut voter quand même. Enfin, oui. Il y a la possibilité, c'est le vote qui va décider de tout ça. Donc, si j'ai à parier un café, je vais mettre Macron-Le Pen au second.
Maintenant, pour toi, Guirou, qui allons te retrouver aussi pour l'épisode sur le deuxième tour.
Je vais aller dans la même. Si je regarde les statistiques, hein, ou les chiffres, ou les sondages, même il faut faire attention avec les sondages. Hein. Les sondages, bon, Pierre Bourdieu l'a bien vu, et répété plusieurs fois, les sondages créent entre autres l'opinion publique. Donc, c'est pas juste une prise de photo à un moment, à un instant T. C'est aussi, ça cristallise et ça solidifie justement des tendances. C'est parti pour que ce soit effectivement encore 2017 comme Macron-Le Pen. Mais il y a encore une possibilité, tout simplement statistique, que Le Pen soit déclassé par quelques voix, je ne parle pas beaucoup, mais c'est possible, par Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise. L'Union Populaire, cette fois-ci, c'est l'Union Populaire. Ils ont changé de nom. Mais j'ai aussi un autre truc pour rebondir sur Macron et Le Pen, en fait, même le lendemain du tour. En fait, Macron aussi s'est positionné, a essayé de créer aussi de la posture que son ennemi naturel pour le prochain tour, ça sera Marine Le Pen. Donc, on l'a vu aux élections municipales, départementales et européennes, c'est les progressistes, donc lui-même, peu importe ce que le mot valise peut bien dire, et les nationalistes. Donc, on est sur deux valeurs qui ne sont pas nécessairement sur le même niveau, mais c'est les positions, c'est les termes que lui a mis comme étant, en fait, pour la prochaine élection, pour les prochaines élections, pas juste présidentielles. Donc, il a aussi mis la table pour que, effectivement, ce soit une répétition, en fait, de 2017. Est-ce que ça sera nécessairement à son avantage? Je ne sais pas, parce que, justement, les sondages lui disent que si c'est le même duel 2017, ben, l'écart, justement, entre les deux sera nettement plus inférieur. Donc, ce ne sera pas un deux tiers, un tiers, mais on est presque à 45-55. Mm-hmm. Donc,
j'ai vu des sondages où c'est 51-49.
Oui, c'est ça. Donc, on est vraiment à quelques milliers, peut-être millions, mais on est vraiment dans une marge de manœuvre que même les sondages ne peuvent pas nécessairement estimer de façon satisfaisante, voir est-ce qu'il y aura une différence nécessairement ou qui va ressortir du deuxième tour. Donc, je ne me prononcerai pas tout de suite pour le deuxième tour ou à l'Élysée. On suivra ça après dimanche.
Parce qu'il y aura une vraie campagne d'entre deux tours.
La vraie campagne.
Eh bien, ben merci beaucoup, Julien Tourelle, d'être venu nous voir aujourd'hui.
Ben, merci à vous, c'était un plaisir.
Et merci à Guirou de nous avoir accompagnés dans l'animation. Et d'ailleurs, Guirou, je te laisse parler parce que tu fais un podcast justement sur les élections françaises. Si tu veux en dire quelques mots.
Oui, d'ailleurs, très bon podcast que j'ai écouté avec grande attention.
Bon, déjà, merci Thomas d'être malade. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé que tu sois malade, mais bon, et merci Paul et aussi Gaël, en fait, pour votre invitation. Merci M. Touré. En plus, c'est superbe, de vous entendre sur les élections françaises et américaines. Donc, suivez-le sur Twitter, entre autres, et sur le balado de la chaire Raoul Landiran. Mais pour parler de mon balado, le nom, c'est Une certaine idée de la présidence. Et justement, je couvre depuis, en fait, le début du mois de mars, première semaine, l'élection présidentielle. Et après, je vais, bien entendu, continuer avec les élections législatives, donc le premier tour et le deuxième tour. Allez l'écouter, c'est sur cette plateforme.
Et merci beaucoup, merci, bonne soirée.